Père, nous te... Nous nous humilions devant toi. Donne-nous un cœur qui est prêt à se repentir. Nous devons tous nous repentir parce que nous tous faisons tant d'erreurs. Particulièrement, c'est ça n'aide pas d'aller de l'avant à Sion. Nous voulons voir, Père, que ta volonté s'accomplisse sur cette terre avec nous aussi vite que possible pour que ton royaume vienne. Particulièrement que ton nom soit glorifié partout, sur toute la terre, comme il est écrit. Ton nom est glorieux sur toute la terre. Que tu puisses nous parler, continue de nous parler. Par la lettre, l'épître de Jacques, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la réalité. Nous voulons apprendre et aller de l'avant jusqu'à ce que nous parvenions au but des prémices pour te satisfaire. Louez le Seigneur. Le temps passe. Aujourd'hui, c'est déjà dimanche. Qu'est-ce que nous devons dire? Il met la galerie parce qu'il n'aimerait pas se voir lui-même. Nous voulons tous voir Christ. Louez le Seigneur. Nous sommes maintenant dans le chapitre 4. Je fais confiance au Seigneur que vous avez eu un bon moment dans la communion, dans ce matin. Dans la communion aujourd'hui, j'aimerais revenir à un verset dans le chapitre 1 qui était très important pour moi. On peut aller au chapitre 1. Jacques 1. Que la miséricorde triomphe contre le jugement. C'est quelque chose de très important de voir cela. La miséricorde triomphe sur le jugement. Cette parole est si pratique. Si nous avons appris cela, alors nous aurons moins de problèmes dans l'Église. À Sion particulièrement. Comme le Seigneur a dit dans Matthieu 5, heureux les miséricordieux, car ils recevront miséricorde. C'est dans le chapitre 2? Ah, désolé, c'est dans le chapitre 2 et pas le chapitre 1. Dans le chapitre 2. Tu ne montrons pas la miséricorde pour les autres, mais nous nous plaignons toujours et nous critiquons, et nous regardons les erreurs des autres. Ça, ce n'est pas beau, chers frères et sœurs. C'est vraiment pas bon. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qui est plus important pour vous, de juger? De se plaindre? Ou d'être miséricordieux. Nous avons besoin tous de cette merveilleuse parole. C'est pour moi de l'or. J'aimerais apprendre de montrer de la miséricorde si je pense combien de miséricorde j'ai reçu de Dieu dans les dernières 80 années. Est-ce que je ne dois pas être miséricordieux, montrer de la miséricorde aux autres? Qu'est-ce que vous pensez? Nous devons apprendre cela jusqu'au retour du Seigneur. Est-ce que nous ne devons pas tous nous repentir devant le Seigneur? Dans l'épître de Jacques, nous devons tous nous repentir. Pas seulement écouter, ok, mais nous devons avoir un tournant. Un tournant. C'est si important. C'est si important d'avoir ce tournant. Nous avons besoin de miséricorde et de grâce, comme la parole dit. Pourquoi est-ce que nous entrons dans le Saint des Saints? Qu'est-ce que tu veux recevoir? La connaissance? La louange de Dieu? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Qu'est-ce que nous recevons? La miséricorde au temps voulu et la grâce. La miséricorde et la grâce au bon moment. Particulièrement s'il y a des problèmes, quand il y a des épreuves, j'ai besoin de miséricorde et de grâce. C'est merveilleux. C'est de la médecine pour nous, ça nous guérit, pour notre guérison. La guérison pour nous tous. J'aimerais encore plus apprendre, l'exercer. Nous sommes toujours souvent le problème des autres que le Seigneur a dit dans Matthieu 7. Pourquoi est-ce que tu regardes la paille, ce petit point dans les autres? Tu as une vision 20-20, tu vois si clairement l'erreur de l'autre, mais il y a une poutre qui est dans ton œil. Tu ne vois pas. Ça, tu ne le vois pas. Nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas nos grandes erreurs de nous-mêmes, mais cette petite erreur des autres. Je ne sais pas pourquoi on voit si clairement. Est-ce que nous avons une supervision? Ça, c'est vraiment pas bon. Mais nous devons apprendre. Nous devons vraiment apprendre. C'est très important. Jacques est si pratique. J'aime l'épître de Jacques. Ensuite, la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Dans le chapitre 3, ce n'est pas comme la sagesse du chapitre 1. C'est une sagesse pour notre vie journalière. Une merveilleuse sagesse dont nous avons tous besoin. Premièrement, pure. D'être pure. D'avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que tu n'as pas un désir de voir Dieu? J'aime beaucoup Moïse, il a posé une merveilleuse question. Elle pose une merveilleuse question à Dieu. Est-ce que je peux voir ta face? Est-ce que je peux te voir? Il veut voir Dieu. Nous voulons voir notre Dieu. Peut-être pas avec nos yeux extérieurs, mais avec nos yeux intérieurs. Paul a prié, il voulait qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous le voyons, pour que nous le reconnaissons. Mais dans nos cœurs, si notre cœur n'est pas pur, alors tu ne peux pas le voir avec tes yeux intérieurs, avec tes yeux extérieurs. Tu vois les erreurs des autres, mais tu es aveugle sur tes propres erreurs. Mais là, nous voulons voir Dieu. Pour ça, nous avons besoin d'un cœur pur. Et les yeux de notre cœur doivent être illuminés. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Pas pour comprendre la Bible, mais je veux le voir. Et comme Paul a dit, avec un visage découvert, sans masque, nous verrons la gloire de l'Éternel. Et ensuite, nous allons être transformés. Plus nous le voyons, sans voile, sans masque, si nous voyons le Seigneur, nous serons transformés. De lire la Bible, c'est bien, mais ça ne peut pas te transformer. Mais si tu le vois, l'apparition du Seigneur, de Paul, Saul de Tarse, ça l'a directement transformé parce qu'il l'a vu. Personne ne peut le convaincre. Pierre, Jacques ou Jean, Matthieu, personne ne peut convaincre Saul. Il n'était pas un frère. Mais une apparition. Il a reçu la lumière, il a vu. Qui es-tu? Il a dit. Il a demandé. Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Nous avons tant de connaissances, mais nous ne nous repentons pas. Combien d'années nous avons entendu des bons messages? Nous avons lu la Bible? Et peut-être oui. Plus que d'autres croyants. Mais nous ne l'avons pas vu. Nous avons eu peu de transformation. Nous ne nous repentons pas. Il n'y a pas de transformation. Nous devons le voir. Un cœur pur, et ensuite avec la qui amène la paix, qui est sage. C'est sûrement quelqu'un, un homme de paix. Sans la sagesse en haut, alors on aura toujours des disputes. Tu penses que tu es mieux? Supporte tout. Est-ce que c'est pas des paroles si douces? C'est une musique pour les oreilles. C'est une musique. C'est pas Mozart, non. C'est l'épître de Jacques. Supporte tout. Tu ne réagis pas, mais tu es prêt d'apprendre. Tu es prêt. Nous avons un peu de critiques. Alors, il y a des ténèbres qui sont ouvertes dans notre cœur. Pleines de miséricorde. Est-ce que tu as déjà pensé la miséricorde et toutes ces propriétés-là, c'est la sagesse d'en haut. Seulement un fou va toujours se disputer, va toujours être offensé, il n'y aura pas de paix, il y aura toujours quelque chose à dire et il n'est pas prêt à apprendre. Il a toujours raison, raison en parenthèse, entre guillemets. De bons fruits. Nous amenons de bons fruits. Exempt de duplicité. Exempt de duplicité. Si quelque chose se passe dans l'Église, premièrement, apprends de ne pas prendre parti, mais à seulement un parti dans l'Église. Si on peut l'appeler comme parti, c'est un parti pieux. Je suis pas pour celui-là ou cela, pour l'autre côté, je suis pour le côté de Dieu, je me tiens toujours du côté de Dieu, alors nous serons objectifs. Alors nous pourrons voir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que d'après la vérité. Sinon, tu juges d'après ta pensée, alors là, tu as des problèmes. Pas seulement tu as des problèmes, mais tu rends le problème encore plus grand. Et nous avons tous besoin d'une telle sagesse. Nous devons manger cette parole, la ruminer. La manger et la ruminer. Nous sommes tous personnes qui ruminent. Toujours nouvellement dit, pensez, Seigneur, j'aimerais avoir cette sagesse d'en haut. Sinon, si j'utilise ma propre sagesse, la sagesse d'en bas, on peut voir qu'est-ce que c'est. C'est terrestre, c'est charnel, ça veut dire de toi-même. Et le dernier point, j'aimerais pas bien volontiers le dire, qu'est-ce que c'est? Diabolique. Oh là là. Vraiment. Est-ce que tu crois cela? Ça veut dire au final, l'ennemi, cette sagesse, toi et tes paroles, il va les utiliser pour sa volonté, pour accomplir sa volonté. Et aussi ces trois mots, nous devons tous prendre garde de ne pas utiliser cette sagesse. Particulièrement à Sion. Apprends cela. Ces paroles ne sont pas seulement écrites, c'est notre expérience. J'ai tant expérimenté cela. Ces choses, et à la fin, c'est tout qui est devenu diabolique. Une fois, j'ai utilisé ce verset, et ensuite les hommes étaient méchants contre moi. Quoi? Tu sais, tu dis que nous sommes diaboliques? Non, Jacques ne dit pas que vous êtes diaboliques, mais une telle sagesse est diabolique. C'est inspiré des démons. Est-ce que tu penses que les démons n'ont pas d'influence sur nous? D'où est-ce que toute la méchanceté, les pensées terribles viennent dans ta tête? Particulièrement quand tu es irrité par la situation, alors ensuite les démons sont pleinement là. Oui, oui, ils vont te dire oui, oui, continue, continue, c'est bon. Comme un coach. Et t'encourage, oui, oui, continue, continue. avec notre stupidité, pas avec notre sagesse, avec notre stupidité. Nous écoutons cela et nous continuons. Et nous allumons le feu toujours plus fort. Et ensuite, ça n'arrête pas. C'est même pas une semaine, quelques mois, mais c'est plus qu'une année. Et ça brûle encore toujours, ce feu. Ça, c'est la sagesse d'en bas. Chers frères et sœurs, quelle sagesse vous voulez avoir? Prends une décision une fois pour toutes, frère. Décide-toi une fois pour toutes. Quelle sagesse est-ce que j'aimerais bien avoir? Dans ma vie journalière, c'est très pratique. C'est pratique, la sagesse pour notre vie. Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir la sagesse en haut pour les mathématiques ou pour la technologie, pour utiliser les ordinateurs. Tu ne peux pas dire à Seigneur, donne-moi la sagesse pour les ordinateurs. Non! Lis lentement les instructions et fais des erreurs et tu apprends et ensuite tu as réussi. Tu n'as pas besoin d'avoir cette sagesse en haut. Tu ne dois pas avoir ça pour utiliser un ordinateur, ce clavier, pour utiliser ça. Tu n'as pas besoin de sagesse d'en haut, mais d'être pur, exempt de duplicité, douceur, plein de miséricorde, conciliante. Pour cela, ça a besoin de sagesse d'en haut. Alors, quelle sagesse est-ce que vous voulez avoir? Et de quelle sagesse est-ce que nous avons besoin pour bâtir le royaume de Dieu? La Jérusalem céleste. Jérusalem, c'est pas terrestre. La Jérusalem terrestre, c'est parce qu'il y a eu tant de problèmes jusqu'à aujourd'hui avec cette Jérusalem terrestre. Il y a des guerres, il y a des disputes, il y a toutes sortes de choses. Nous sommes célestes. Nous sommes la Jérusalem céleste. Qu'est-ce que nous bâtissons? Afin que nous avions choisi un merveilleux nom, la Jérusalem céleste. Ça me réjouit. Alléluia. Mais seulement d'avoir le nom. Est-ce que vous êtes vraiment céleste? À Sardes, le Seigneur a dit, vous avez le nom, que vous êtes vivant. Mais dans la réalité, il y a la mort. Il y a la mort. Nous ne devons pas seulement lire, mais laisser la parole agir, couper, que la parole en nous puisse nous opérer. Toutes ces choses, de les couper, de se laisser purifier. Ensuite, Jacques, un jour, s'il nous voit, on dira, louez le Seigneur, ça a fonctionné. Est-ce que c'est pas merveilleux? Ça, nous voulons tous voir à Sion. Parole n'est pas si facile, mais ça doit venir en nous, ça doit couper comme une épée, doit transpercer. Si la parole de Dieu ne vient pas jusque dans le cœur et guérit là, c'est un couteau qui coupe. Notre médecin céleste. Nous devons être exposés parce que sinon, nous n'allons pas être guéris. Pour la guérison, nous avons besoin de premièrement du bon diagnostic. Sinon, nous enlevons la mauvaise dent et ça, c'est pas bon. Ça, c'est sûrement pas bon. Seigneur Jésus, je crois, nous parlons tous avec un cœur lourd parce que c'est notre état. Ça, c'est notre état. Seigneur, guéris-nous, purifie-nous, sauve-nous entièrement. Je délis cela, je saisis cela dans ce chapitre parce que c'est juste dans notre expérience pour la vie journalière. Maintenant, nous venons au résumé, au chapitre 4. Dans tout l'épître de Jacques, il y a un lien. Ça va, ils vont ensemble. Tous les chapitres vont ensemble, les uns avec les autres. Ça, nous devons le voir. Même dans Jacques, il parle de la langue. Qu'est-ce qui se passe quand la langue n'est pas mise en bride? Alors, il y a un problème. Cette langue, le Seigneur dit, c'est très petit, c'est un petit membre. C'est petit, mais terrible. C'est comme ça que les Américains disent. Qu'on ne reconnaît pas, c'est si petit, c'est pas dangereux. Plus c'est petit, plus c'est dangereux. C'est d'autant plus dangereux. Qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas mis en bride alors? Il y a le désir de la chair qui vient, qui remonte. Nous revenons résumer ici. Toutes ces choses que Jacques a dit, c'est très important. Les guerres, les querelles. Est-ce que tu penses que dans l'église, il n'y a pas de querelles? Non, non, c'est juste une dispute. De quoi comme dispute? Est-ce que des guerres, des querelles, c'est pas des disputes? Nous faisons des guerres. Si nous ne sommes pas dans la paix, si nous n'avons pas cette sagesse d'en haut, alors nous faisons des guerres. Comme en Ukraine. Chacun reste sur son droit et chacun dit qu'ils ont raison et même s'ils sont méchants et ils sont faux, et ils disent non. Ils n'acceptent pas et disent non, non, j'ai raison. Alors qui a raison? Chacun dit qu'il a raison. Et si nous sommes ainsi dans l'Église, chacun dit alors moi j'ai raison, non, moi j'ai raison. À la fin, qu'est-ce qui revient? Il y a une guerre. Une petite guerre, c'est aussi une guerre. Et à la maison, l'homme et la femme, dans le couple, mari et ta femme, il y a aussi une guerre. Est-ce que tu aimes les guerres? C'est si petit. Tu penses, une petite dispute, c'est pas une guerre. Jacques utilise le mot guerre. Vous faites des guerres. Si je pense à une guerre, alors je pense à la Deuxième Guerre mondiale. Ah, ça, c'était une guerre. Avec des bombes. Oui. Est-ce que tu ne penses pas que tu n'as pas de bombes? Tu as aussi des bombes. Je vous amène au retour au Cantique des Cantiques. Non, au Cantique des Degrés, pardon, dans le psaume 120. Dans le psaume 120, dans le Cantique des Degrés. C'est très important. Parce que si nous ne prenons pas garde au psaume 120, alors tu ne vas pas atteindre le psaume 133. si nous n'avons pas appris le psaume 120, alors tu ne pourras jamais parvenir au psaume 133, bien que nous aimons beaucoup le psaume 133. Alléluia, le psaume 133. Nous chantons volontiers cela, mais nous devons aussi faire un chant du psaume 120. Qu'est-ce que dit le psaume 120? Je prends ma Bible allemande. Psaume 120. Cantique des degrés. Ils ont chanté ce chant sur le chemin de Jérusalem. Ils sont montés à Jérusalem. Mais ils commencent premièrement avec le psaume 120, parce que tous ceux qui vont vraiment à Jérusalem, ils doivent se rappeler. Ils aiment les guerres, mais Jérusalem est une ville de paix. Mais nous sommes des hommes de guerre. Nous sommes tous des combattants. Heureusement, ton nom, c'est pas guerrier. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Est-ce que tu n'as pas une détresse? Et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Ça, c'est ce que Jacques dit. La lèvre mensongère. Non, je ne mens pas, mais si tu juges d'après ta manière de bien penser, alors tu mens, parce que ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Tout ce qui n'est pas vrai, ce qui sort de ma bouche, c'est un mensonge. C'est faux. Vous pensez, ah, désolé, c'était faux. Non, c'est un mensonge. Et tu penses même que tu as raison. Délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Une langue trompeuse, qu'est-ce qu'elle te rapporte? Ce n'est pas les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genêt. Qu'est-ce que dit Jacques? Ta langue est une flamme de feu de où? Des ténèbres, de la gêne. Ça enflamme pas seulement un feu, mais ça enflamme. Ça enflamme un feu. De la gêne. Est-ce que tu n'as pas peur de ta langue? Tu es père. Malheur, malheureux que je suis de séjourner à Méchec. Dans les sauvages, mais Méchec, c'est les sauvages qui habitent tout au nord. Ils sont tous des barbares. Est-ce que tu penses que ma chair et ta chair, on est tous des barbares? Séjourner, d'habiter parmi les tentes de Kedar. Kedar, ce sont les noirs. D'après de la chair, nous sommes tous noirs. Et certains noirs sont blancs et certains blancs sont noirs. C'est ainsi. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. assez longtemps. Cette chair aime ce qui est de la guerre. Ça veut dire qu'elle est la paix. C'est ainsi. Je suis pour la paix. Est-ce que tu n'es pas pour la paix dans ton esprit? Dans ton esprit, tu es pour la paix, ou bien pas? Mais quand je parle, dès que je parle, ils sont pour la paix. Mais c'est qui, ils? Là, tu dois lire Galates 5. L'esprit, la chair, fait la guerre contre la... L'esprit fait la guerre contre la chair et la chair contre l'esprit afin que tu ne saches pas ce que tu dois faire. En esprit, tu aimerais avoir la paix, ou bien pas, n'est-ce pas? Bien sûr. Le Seigneur habite dans mon esprit, mais la chair aimerait faire la guerre. Alors, qui gagne? Qui gagne? Est-ce que tu sais pourquoi j'apprécie le psaume 120? Parce que si je ne sais pas cela et je ne laisse pas traiter cela, alors je ne viens pas au psaume 133. Après 60 années, j'ai chanté, nous disons, nous sommes pour l'unité, nous nous tenons sur le terrain de l'unité, j'ai toujours vu des guerres. Combien la guerre, elle est grande, la guerre que j'ai vue. Mais nous, nous parlons de l'unité. Nous sommes un. La question, c'est un avec qui? Un avec qui? Et ainsi, apprends à ne pas voir la doctrine seulement. La vérité, c'est bien, mais si tu ne la pratiques pas, alors ça ne te sert à rien. Ça ne va pas nous être utile. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le frère Jacques, qu'est-ce qu'il dit? Il se passe des guerres. Des disputes, des désirs, contentement. Nous sommes toujours pour les désirs de la chair. Et nous apprécions encore le monde. La convoitise dans la Bible, c'est service, idole, l'amour. De l'argent, c'est un service des idoles. Nos idoles aujourd'hui, ce ne sont pas une grande statue de beaucoup de figures avec un gros ventre et quelque chose sur la tête. Ça, c'est des... Tu as déjà vu des idoles? Beaucoup de restaurants chinois, tu rentres et tu vois quelque chose en or avec... sans cheveux. Mais nos idoles aujourd'hui, ce n'est pas une figure, un bout de papier. C'est un rectangle avec Thomas Jefferson, Bernard Franklin, et avec un dollar, ça, c'est notre idole. Et nous le portons partout. Et notre idole aujourd'hui, c'est en plastique, encore plus simple. Et nous faisons confiance à ce plastique. Ça, c'est nos idoles. Convoitise. Paul dit que la convoitise, le service, ces idoles, c'est de l'idolâtrie. Toutes ces choses viennent d'en bas. Ça, c'est la sagesse d'en bas. C'est pour cela, frères et sœurs, si nous sommes exercés dans notre esprit, alors nous devons prendre garde et de dire non. Ça, nous ne voulons pas avoir. Si nous voyons que ça vient, alors nous devons directement reconnaître et dire non. Est-ce que nous pouvons encore attendre? Si les épreuves viennent et nous attendons, alors l'ennemi vient et excite les désirs de la chair. C'est comme deux côtés. Le Seigneur nous laisse les épreuves, mais Satan vient et n'attend pas si tu réalises que les désirs de la chair et de la langue, ça commence à chatouiller. Pas seulement les oreilles chatouillent, mais aussi la langue. C'est déjà un signe. Arrête. Tu dois avoir une lumière rouge qui dit arrête et ne continue pas de suivre les désirs de ta chair, de les laisser. Parce que sinon, il y a un accident. Si en conduisant la voiture, alors tu vois déjà qu'est-ce qui se passe directement, alors ton pied vient sur les freins et tu n'attends pas jusqu'à ce que tu sois si proche. T'es curieux, alors tu aimerais encore voir qu'est-ce qui se passe devant. À la fin, tu es le participant d'un accident. Apprends au bon moment d'arrêter cette envie. Si nous n'arrêtons pas au bon moment, alors ces désirs de la chair, comme Jacques nous l'a décrit, ça reçoit et ça donne naissance au péché. Est-ce que tu sais? Premièrement, il y a un sentiment. Et ensuite, si tu attends encore, alors ça donne le péché. Le péché n'est très très long, passe 9 mois. Parce que ce désir, n'attends pas 9 mois jusqu'à ce que le péché, ça amène le péché. Non, 9 secondes. Même pas 9 minutes. Et ensuite, Jacques dit, qu'est-ce qui se passe? La mort. Et ça, c'est le fruit. Toute la mort vient dans l'Église. La mort. Premièrement, le désir qui est incité, ça reçoit quelque chose, ça envoie une semence, et cette semence s'appelle le péché. Et le péché, ça ressort. Et ensuite, à la fin, il y a la mort qui est là. Est-ce que tu penses que tu peux te débarrasser de la mort si vite? Alors tu as besoin de la force de résurrection. Mais tu ne l'utilises pas. C'est pour toi seulement, « Ah, le Seigneur est ressuscité, mais pas moi. » Je rigole encore tant de la tombe. Et si cela se passe, alors utilise la puissance de résurrection. Tu dis, non, Seigneur, je me repens, je me relève de ma tombe. J'aimerais pas rester dans la tombe de la mort. Ou est-ce que tu veux rester volontiers là-dedans? Tu te sens si bien, tu peux rester des mois entiers dans cette tombe. Apprends. Le Seigneur est là. Il est resté seulement 3 jours. Toi, tu restes après 3 ans, tu es encore dedans. Le Seigneur n'est même pas resté 3 jours entiers. Il est entré dans la tombe après les premiers jours, tout le premier jour, le jour du sabbat, et ensuite au premier jour très tôt le matin, il est ressuscité. Il n'est même pas resté 3 jours complets. Mais nous, nous restons dans la mort, dans la tombe de la mort. Trois semaines, c'est déjà trop long. Est-ce que si tu attends 3 semaines, alors il y a ça sent déjà. Alors le corps, c'est pas un corps, mais c'est dit, il y a déjà les vers qui en ressort. Et le cinquième jour, le quatrième jour, mardi. Ah, Lazare sent déjà. Mais heureusement, le Seigneur peut ressortir Lazare de la tombe. Et j'espère que le Seigneur nous sort tous de la tombe. Amen, cher saint. Je n'entends pas d'amen. Amen. Bien, est-ce que vous préférez rester dans la tombe? Seigneur, c'est si important d'apprendre pour nous, pas seulement de connaître la connaissance. J'aimerais sortir, j'aimerais ressortir de la tombe. Même si je sens déjà, Seigneur, amen. J'aimerais être comme Lazare. Sortir de la tombe. Le chant est le Seigneur est ressuscité et en même temps, nous aussi. C'est pas seulement un bon chant, mais si c'est seulement un bon chant, alors qui est chanté, mais qui est pas en réalité ainsi, alors qu'est-ce que ça te sert un chant? C'est pour cela que Monsieur dit que nous ne changeons pas en brisant le pain de chanter, 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 chanter jusqu'à ce que notre gorge gratte pour 1 heure. Qu'est-ce que ça sert de chanter? De chanter, c'est facile. Et qu'est-ce qui apprécie de chanter? Toi, tu apprécies de chanter. Et chacun a son chant préféré. Est-ce que tu chantes pour le Seigneur? Le Seigneur va dire, pourquoi est-ce que tu chantes en réalité? C'est pour ça qu'on a dit, laissons que nous puissions célébrer les fêtes comme c'est écrit dans la Bible. Et les fêtes de l'Éternel, c'est pour nous, pour les expérimenter, pour les apprécier, pour les goûter. Nous mangeons le pain du ciel. Et en mangeant le pain du ciel, alors nous apprenons, nous sommes fortifiés de se débarrasser de tout levain. Ça, c'est le but. C'est un système vivant, comme le Seigneur a fait avec nos corps. Tu ne peux pas seulement toujours manger, 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 mais il n'y a rien qui en ressort. Ce qui devrait en ressortir, tu dois sortir, sinon tu deviens malade. Si notre chair, notre orgueil, toutes ces choses qui sont, doivent être, nous devons nous purifier, nous en débarrasser. Débarrasser, alors nous serons malades. Alors nous serons malades. Alors tu peux dire tant de la Bible, ça ne va te servir à rien. Et si, avec ta digestion, avec ta digestion. Merci frère. Il ne trouvait pas le mot en allemand. Si avec notre digestion, ce qui n'est pas en ordre et ce qui en reçoit reste en toi, plus tu manges, tu te manges toi-même à ta mort. Ça, c'est ce système organique. C'est organique. Apprends de ton corps. Si le Seigneur nous a comparé avec son corps, et si tu vas rendre ton corps complètement malade. Et à la fin, tout le corps de Christ ne peut pas être sain, mais il est malade, il est mort. Peut-être que vous ne le remarquez pas vous-même dans l'église, mais si quelqu'un vient dehors, il vient et il sent quelque chose. C'est plus vivant ici. Est-ce que tu penses que l'église à Sarthe a su qu'ils étaient morts? Ils étaient morts. Ils ne le savaient pas. Ça, ils ne le savaient pas. Louez le Seigneur. J'aimerais pas seulement parler de la doctrine de Jacques, et même pas de doctrine à enseigner. Nous devons parler de la réalité. Celui qui a des oreilles entende. Si nous apprenons, oui, mais c'est le Seigneur, ne nous force non plus pas. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Il nous a donné une volonté libre. Le choix est là. Ça dépend de toi. Comment est-ce que tu vas avec la vérité? Que nous puissions apprendre de Jacques. Et ensuite, Jacques a dit, si nous avons cette tête, alors Dieu ne va pas écouter notre prière, nos prières. Parce que notre prière est même méchante, avec des vues mauvaises. Si l'Église est morte, alors tu dis, Seigneur, rends-nous vivants. Le Seigneur dit, oui. Tourne-toi, repends-toi. Non, pourquoi me repentir? J'ai rien fait de faux. Oui, lui doit se repentir, moi pas. Et à la fin, est-ce que tu penses que Dieu écoutera une telle prière? Dieu n'est pas fou. Excuse-moi de dire ça, bien sûr, oui, il n'est pas. Mais je suis un fou. Dieu est le seul sage, le seul Dieu sage. Ce que Paul dit, seul Dieu qui est sage. Nous sommes tous pas sages, nous sommes des vierges folles. Je vous demande tous, si nous voulons voir volontiers que l'Église devienne vivante, ça dépend de toi, ça ne dépend pas des autres. Chacun a la responsabilité. Ne dis pas, ah oui, c'est sa faute, c'est sa faute. Si nous faisons ainsi, montre-moi ton doigt, je te montre mon doigt. Et ensuite, l'église de Sion est glorieuse, n'est-ce pas? Glorieux. Dieu ne va même pas entendre notre prière parce que nous prions. Nous avons une prière avec une mauvaise vue. Pour accomplir nos propre désir, Dieu ne va pas écouter une telle prière et à la fin, nous aimons le monde. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre à aimer dans l'Église. Dans les réunions, il n'y a pas d'approvisionnement, alors tu me critiques et moi je te critique. Alors personne n'a la force d'amener une offrande au Père. Et ensuite, quand nous avons un problème les uns avec les autres, alors comment est-ce qu'il peut encore amener une offrande au Père? Et ensuite, il me dit, mais comment est-ce que le frère alors peut encore dire une parole? Et à la fin, mais comment est-ce que l'Église sera, l'Église de Dieu, comment est-ce qu'elle sera? Dis-le-moi. Et à qui est la faute? À lui. Lui. Quand la question vient, alors, tu montes ton doigt. Ah, le frère est. C'est lui à qui est la faute. Le frère a même appris. La lacrin ainsi, il peut même rire. Ça doit être ainsi, nous devons apprendre. Avec la bouche, nous disons Alléluia, nous sommes à Sion, mais avec nos actions, avec notre marche, nous ne sommes pas pour Sion, non. Non. Amitié avec Dieu, c'est l'inimitié contre Dieu. Est-ce que tu aimes encore le monde? Le monde n'aime pas seulement ta Mercedes ou Porsche. Nous pensons toujours à ça, c'est le monde. Alors quelqu'un veut une Mercedes, ah, il est mondain. Non, non, c'est les désirs de la chair. Les désirs des yeux, l'orgueil de la vie, la fierté. Je pense que je suis mieux que toi, c'est aussi la fierté. Peut-être que je ne pense pas que je suis fier, mais si je ne suis pas fier, pourquoi est-ce que je juge? Est-ce que je suis un juge? Si c'est que quelqu'un a fait un péché, alors même, si nous jugeons de cette manière, alors nous jugeons dans l'amour du Seigneur, afin que celui qui a péché puisse se repentir et être sauvé. C'est ainsi que le Seigneur a fait avec cette femme. Dans Jean 8, elle a vraiment péché. Le Seigneur n'a pas dit, « Ah, ça ne joue aucun rôle. Laisse-la à la maison. » Les pharisiens auraient dit, « Tu es injuste. » Et si ensuite le Seigneur dit, « Ou bien, alors, prends-toi. Tu l'as. » Ils auraient dit, « Toi, tu es un meurtrier. » Alors, qu'est-ce que le Seigneur doit faire? S'il fait ainsi, c'est pas juste pour leurs yeux. Et s'il fait ainsi, c'est pas juste pour les autres yeux. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que le Seigneur doit faire? Le Seigneur a premièrement à exposer la nature pécheresse des autres, que ceux qui montrent le doigt sur les autres et sur la femme, ils ne sont pas mieux. Seulement, elle a été prise, mais vous faites cela dans les ténèbres. Personne ne le voit. Vous le cachez. Pour ça que le Seigneur a exposé ces hommes. Et ensuite, le Seigneur dit, qui sont ceux qui t'accusent? Mais le Seigneur lui a dit, je ne te juge pas, mais ne pêche plus. Mais si la femme dit, non, je vais continuer de faire ça. Qu'est-ce que le Seigneur doit faire? Est-ce que tu penses le Seigneur, c'est sa sagesse? Miséricordieux. Il est très miséricordieux. Pas seulement le jugement. Nous devons apprendre de lui. Si quelqu'un a fait une erreur, apprends. Nous voulons aider en disant la vérité, mais nous disons la vérité avec la vue, avec la miséricorde et l'amour de pouvoir aider, que cette personne soit aidée, pas seulement de dire « Non, ça ne fait pas. » Blablabla. Est-ce que tu penses que ça va aider ces personnes? Non. Le Seigneur dit d'abord, mais ne pêche plus. Cette parole est importante, cette phrase. Ne fais pas cela. Tu l'as fait, ok, mais maintenant, à partir de maintenant, ne le fais plus. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait ensuite si cette, avec ce jeune homme, ce jeune homme riche qui est parti? Nous avons beaucoup à apprendre dans la vie de l'Église. Si nous apprenons du Seigneur, nous sommes guidés par l'Esprit. Nous avons un jugement dans le cœur, mais pur et plein de miséricorde. Est-ce que tu penses que ça ne se mord pas les uns les autres, la miséricorde et la justice? Et c'est des jumeaux. La justice et la paix, ce sont des jumeaux. Mais notre justice est sans paix. Parce que notre jugement, il n'y a pas d'amour et de miséricorde. Nous avons tous beaucoup à apprendre, frères, tous les saints, tous les frères. Nous devons tous apprendre, ceux qui, les frères qui dirigeaient les saints, parce que sinon, il y aura beaucoup de problèmes. Si nous voulons bâtir Sion, alors nous bâtissons pas seulement avec justice, mais avec la miséricorde, et avec la paix, et avec l'amour, et avec la sainteté, jusqu'à ce que tout, en fait c'est toutes les descriptions de Dieu, si Dieu est glorieux, mais pas miséricordieux, alors nous avons tous un problème, nous sommes aujourd'hui tous morts. Alors nous ne pouvons plus, aujourd'hui, encore continuer d'avancer pour son plan. Mais si nous sommes seulement pour la justice et pour le témoignage de Jésus-Christ, alors ça ne va pas non plus. Est-ce que vous comprenez cela, frères et sœurs? Votre vie humaine, elle a plusieurs côtés. Nous devons nous occuper de cela. Nous devons bien nous nourrir, bien dormir, avoir du repos, mais aussi des exercices corporels. Nous devons aussi apprendre, étudier. Nous devons travailler. Nous devons prendre garde à la propreté, la sainteté, parce que sinon notre appartement sera comme un junkyard, une place où il y a plein de déchets. La vie humaine a besoin de beaucoup d'aspects où nous devons absolument, au même moment, nous en occuper, pas seulement un côté. pas seulement un côté, la Nouvelle Jérusalem, c'est un carré. La longueur, la profondeur, la hauteur, c'est un carré. C'est la même, les mêmes mesures, c'est si merveilleux. Des portes à chaque côté et tout est en pierre précieuse, c'est si merveilleux. Il y a tout qui est compté. C'est pas de biais. Ça, nous l'apprenons. Plus nous bâtissons, plus nous apprenons. C'est si merveilleux, cette parole. Et ensuite, la fierté. Cette fierté, elle n'est pas bien. Il y a quelques temps, il y a quelques années, nous avons Proverbe 6, verset 16, il dit 6 ou 7, il y a 7 choses que Dieu est. Et quelle est la première chose? Un regard hautain. Est-ce que tu penses? Un regard, un homme hautain. Tu as seulement besoin de voir et ses yeux. Et comme il regarde les choses avec ses yeux. Seulement un regard, ça suffit. Ça veut dire ce que tu vois. Ça ne te passe pas parce que tu es fier. Et s'il y a, de la nourriture sur la table, tu dis, ah non, j'aime pas ça. Tu as directement une critique. Et si ma femme me demande, est-ce que tu aimes? Et je dis toujours, oui, j'aime bien. Parce que ça a un bon goût d'un côté, ça. C'est vraiment bon, mais parfois ça va pas avec ma langue. Ça veut pas dire que c'est pas bon, mais je ne dis pas toujours. Je dis toujours oui, c'est bon. Parce que sinon il y a des disputes à la fin. Demain, alors c'est toi qui vas cuisiner. Non, alors ça sera encore pire si je cuisine. Alors il n'y a personne qui mangera cela. Et à la fin, on ne pourra pas manger. Ça, je dois accepter. Alors je dois apprendre tout le temps de manger de ce qui se trouve devant moi. Ma mère m'a toujours dit quand j'étais enfant, quand je disais ça, j'aime pas. Non, ça et ça, j'aime pas. Elle m'a toujours dit, combien d'enfants dans ce monde n'ont rien à manger? Et tu te plains? Nous ne pensons pas aux autres. Nous sommes fiers. Ça, c'est une fierté. Non, nous sommes mal habitués. Nous pensons, nous avons raison. Non. Regarde le Seigneur, il est Dieu. Il a été persécuté sur la terre de sa création, par sa création, par les créatures, par les hommes qu'il a créés. Et il pense qu'ils sont mieux que Dieu, où le Seigneur savait déjà qu'ils sont si déchus, si diaboliques. Une fois, le Seigneur a montré votre père est l'ennemi. Race de vipère, c'est pas Abraham qui est votre père. Ne sois pas si fier, non. Si quelqu'un fait une erreur, pense ce que Jacques a dit, nous tous faisons des erreurs. Nous ne sommes pas une exception. Nous ne réagissons pas en tant que quelqu'un qui est si saint. Ça serait terrible. Mais seulement si nous avons une telle conscience, moi-même, je suis un homme plein d'erreurs. Alors je peux aider un homme qui a fait une erreur. Parce que sinon, tu le tues. Ne pas critiquer. Mais ça ne signifie pas que celui qui a besoin de l'aide va accepter ton aide. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. Mais nous, qui apprenons volontiers à Sion, dans la Jérusalem céleste, si nous voulons aider quelqu'un, alors nous devons penser à cela, ce que Jacques a dit. Nous tous faisons des erreurs. Si je vois cela, alors je peux aussi comprendre cette personne. Alors mon aide, si je lui dis la vérité, c'est pas pour le juger. Mais oui, fais seulement. C'est ensuite sa responsabilité, comment il l'accepte. Si celui qui aide n'est pas fier mais s'humilie, mais celui qui a besoin d'aide est fier, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors tu ne dois pas, celui qui est tenté, de lui donner de l'aide, lui donner la faute. Louer le Seigneur. Il y a tant à apprendre de Jacques. Et là, nous devons pas nous accuser. Est-ce que ce n'est pas des paroles douces, des paroles qui guérissent, des paroles de vérité, pas des grandes doctrines? Nous n'avons pas besoin de cette grande doctrine dont personne ne comprend. Paul dit aux Galates, vous ne devez pas mordre les uns, et je te mords et tu me mords. Nos dents sont utilisées, sont là, elles sont créées, pas pour se mordre les uns les autres. Ça, c'est pas bon. J'ai souvent été mordu, si souvent. Mais j'aimerais apprendre de ne pas mordre les autres. Non, nous ne devons pas nous mordre les uns les autres. Et si quelqu'un veut dire quelque chose, laisse-le. Ne pas continuer, c'est OK. Alors, c'est leur responsabilité devant Dieu. Alors Dieu doit juger, pas moi. Si ce n'est que c'est un grand péché, comme dans 1 Corinthiens. Seigneur Jésus, ne pas vous glorifier, mais particulièrement ceux qui sont riches, doivent apprendre de s'humilier, comme Paul a dit. Ceux qui sont pauvres doivent apprendre d'avoir ce sentiment d'infériorité, mais doivent penser, Alléluia, je suis un fils de Dieu. Mon état est si haut. Et celui qui est riche, ils doivent apprendre, je ne suis rien, comme si je n'avais rien. Et apprends à partager avec les pauvres. C'est ce que dit Timothée. Ne pas tout garder pour soi. Demain, nous allons voir cela. Alors, il dit, Jacques, qui sait faire le bien, ne le fait pas. Pour lui, c'est un péché. Le péché. Si je fais quelque chose de passé, si je fais quelque chose de mauvais. Jacques l'a dit très clairement. Si je sais que je dois faire quelque chose de bien pour celui-ci, pour cette personne, et ensuite, ah non, je ne le fais pas. Ça, c'est le péché. Ce que Paul a dit, si je ne prends pas garde à la conscience des frères et sœurs, alors je pêche contre Christ. Je fais quelque chose qui amène la chute d'un frère parce que je ne prends pas garde à sa conscience et ensuite je pêche contre Christ. Ça, c'est aussi le péché. Il y a beaucoup de péchés, de différentes formes de péchés. Contre les frères et sœurs, de juger seulement parce que ça ne te plaît pas, seulement parce que tu penses, ça c'est pas bon, d'après ma bonne pensée. Ça c'est aussi un péché. C'est ce que Jacques dit aussi. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Ensuite, l'avertissement de Jacques. Le médecin ne peut pas seulement te montrer ta maladie sans médicament. Si je vais chez le médecin, il dit, ouais, tu as du problème d'estomac et tu as cette maladie et cela. Oui, c'est allergie. Alors maintenant, tu sais tout. Va à la maison. Ça ne va pas. Je lui demandais, mais qu'est-ce que je dois faire? Je vais demander au médecin. Humiliez-vous devant Dieu. Chaque jour. Va à genoux, dis au Seigneur, je m'humilie devant toi. Tu dois faire cela parce que l'orgueil, c'est une maladie de notre chair. C'est la maladie de Satan. Chacun d'entre nous est fier. Si tu es riche, tu penses que tu es un homme particulier. Non! Tu sais, c'est bizarre que Jacques ne mentionne pas les riches comme frères et dit, j'aimerais demander une fois, pourquoi est-ce que la folie, c'est pas un frère? Bien sûr, c'est aussi un frère. Mais il a sûrement eu une vue, parce que de notre sagesse, nous regardons si vite ou riche à l'élite en Asie. J'aimerais vraiment vous dire, j'ai encore jamais vu qu'un frère pauvre soit pris comme ancien, soit choisi comme ancien. Tous les millionnaires, tous ceux qui sont riches, je ne peux pas oublier cela. Ça, je le vois. Si en tant qu'un plus jeune, je peux voir ça, est-ce que tu penses, est-ce que le Seigneur ne peut pas voir cela? Et un jour, quand j'ai servi le Seigneur, un frère est venu qui a servi en Asie. Pourquoi est-ce que je vous raconte l'histoire? Mais ce que tu sais, parce que Jacques parle si pratiquement, alors je parle aussi un peu pratiquement, plus pratiquement. Ce frère m'a expliqué des années plus tard que ce grand frère, autrefois, ils ont appris à servir et le frère leur a dit, si tu as envoyé différents lieux pour servir Dieu, premièrement, alors vous devez aller chercher des arbres d'argent. Et si tu as trouvé un arbre avec plein d'argent, alors tu dois secouer l'arbre pour que tout l'argent tombe de cet arbre. Est-ce que le Seigneur nous a appris cela? Pierre, ou tous ces 12, Quand ils sont sortis, vous devez chercher les maisons où il y a des arbres avec de l'argent. Alors si tu toques à la porte et tu rentres et tu secoues cet arbre d'argent, il y a l'argent qui tombe et ensuite tu n'as pas de problème. Le Seigneur leur a dit, ne prenez pas de porte-monnaie avec vous. Nous pensons que c'est différent. Alors tu n'as pas de poche, alors cherche un arbre d'argent. C'est ainsi. J'ai dit à ce frère, qui est un peu plus âgé que moi, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu ne l'as pas dit plus tôt? Pourquoi seulement maintenant? C'est ainsi, cher frère. Nous devons nous humilier parce que Dieu donne la grâce à ceux qui s'humilient. Ne pense pas que tu recevras la grâce de Dieu. Tu résistes aux orgueilleux, pas seulement les non-croyants, mais je crois bien plus parmi nous, les croyants. Apprends de nous humilier devant Dieu. Quand tu es seul dans ta chambre, va sur tes genoux, pour ça que tu as des genoux. Pourquoi est-ce que les genoux sont là? C'est pas seulement pour marcher, mais particulièrement pour se mettre à genoux. Nous voulons tous nous apprendre à nous mettre à genoux. Soumettez-vous à Dieu. Soumettre, résister au diable. Ça, tu verras l'ennemi. Va partir, il va devra fuir. Le Seigneur a dit à Pierre, pas directement à Pierre, il a dit, arrière de moi, Satan, parce qu'il a reconnu que ce n'était pas Pierre, c'était l'ennemi qui était derrière Pierre. Et ensuite, approchez-vous chaque jour de Dieu. S'approcher de Dieu. Et Dieu s'approchera de vous. C'est exactement comme Malachie l'a dit. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Alors Dieu s'approchera de vous avec sûreté. Même si nous avons fait tant d'erreurs, nous avons fait des choses fausses en tout temps. Chers frères et sœurs, si nous nous repentons, il y a le pardon qui est là. Si nous reconnaissons pas seulement de se repentir, mais de reconnaître, c'est bien plus que de se repentir dans son cœur. C'est Seigneur, je me suis comporté d'une manière fausse. Apprends de te reconnaître devant Dieu. Nous avons de la honte, au lieu d'être fiers, nous, c'est de s'humilier. S'humilier devant Dieu. J'ai honte qu'une telle chose se soit passée. Le Seigneur doit œuvrer en nous. Et ensuite, laver les mains. Louer le Seigneur. Tout ce que nous faisons, ça doit être saint, ça doit être purifié. Dans ce temps de la pandémie, dans cette pandémie, c'est encourageant. Ah, ça a été encouragé que tout le monde se lave les mains. Tout le monde s'est lavé les mains et à la fin, notre Notre peau est devenue si fine. Et ensuite, pas seulement avec du savon, mais encore avec l'alcool. Mais spirituellement, nous ne voulons pas faire cela. C'est pour cela que nous montrons nos mains au Seigneur. Les hommes prient avec les mains élevées, particulièrement les pentecôtistes. Les pentecôtistes prient, ils ont besoin de ça. C'est peut-être bien, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça signifie? Tu sais, mes enfants, quand je leur dis « Lavez-vous les mains », alors ils lavent les mains, ils me montrent leurs mains, et je les dis « Est-ce que tu penses quand les enfants lavent leurs mains, juste un peu mouillé, après, ensuite on essuie sur ses habits, et ensuite on montre les mains ?» Et je leur ai dit « Montre tes mains ?» Non, va les laver à nouveau. Ensuite, je vais avec... Et je regarde comment est-ce qu'elles lavent leurs mains. Et je leur apprends de laver les mains. Pourquoi est-ce que je montre mes mains en haut? Ceux qui ont le cœur pur, qui ont des mains pures. Ça veut dire que j'aimerais montrer au Seigneur, « Seigneur, mes mains ne sont pas sales. Teste-les, éprouve-les. » Est-ce que j'ai fait quelque chose que j'ai fait qui a enfoncé les seins? Quelque chose qui est méchant, qui les salit? Lavez-vous les mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est déjà venu dans les hommes irrésolus dans le chapitre 1. De deux âmes, une double âme. Repentez-vous, louez le Seigneur. Le temps est passé. C'est le bon temps, le bon moment. Amen. Nous pouvons prier. J'espère que nous pouvons tous aller de l'avant et que ça ne nous empêche pas. Il faut vaincre tout ce qui encombre le chemin, de se débarrasser de tout levain, toute vanité, la méchanceté, tout ce qui est contre les uns les autres. Nous devons apprendre. Et le laisser purifier dans la vérité. Que le Seigneur soit avec nous tous, chers frères et sœurs. Jusqu'à demain. À demain, pardon. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur, frère.